Bonjour Christine.
Bonjour Jean.
Bonjour Kezako.
Oh, bonjour notre invité.
Ah, bonjour Lionel.
D'où surgit-il? Bonjour Lionel.
Mais d'où
qui est-ce? D'où vient-il
celui-là? Kezako. Kezako, c'est quoi? C'est une émission où l'on joue, car nous sommes très joueurs, il faut bien le dire. Nous vous proposons de jouer avec nous à un jeu avec des mots qu'on ne connaît pas. Un jeu avec des mots qu'on ne connaît pas, avec un invité qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. On le connaît, mais on le connaît à peine, n'est-ce pas Christine?
Oui, c'est qui? Eh bien, il s'appelle Lionel Bureau. Et d'ordinaire, si c'était ordinaire, il assure magnifiquement la technique. Et puis aussi des petits jeux de mots. Il s'appelle Lionel Bureau et c'est notre invité surprise. Il n'est plus seulement un technicien. Mais qui est-il?
Ah, qui suis-je?
Qui êtes-vous?
Et dans quelle étagère? C'est une bonne question. Ben, je me sens double, en fait, puisque, effectivement, comme vous dites, je suis à la fois...
Être clivé.
Voilà, tout à fait. Pas spécialement clivant, mais très, très clivé aujourd'hui, parce que je suis avec deux casquettes, même trois, parce que j'ai...
Et nous traite de casquettes, maintenant.
J'ai la casquette pour tirer les mots rares, et puis j'ai la casquette de bénévole à Radio Campus pour contribuer à votre émission, que j'aime beaucoup et que j'ai découvert en venant faire la technique, et j'en suis ravi.
Et puis pas seulement, vous êtes aussi bénévole pour une autre émission, vous pouvez faire de la pub.
Oui, je suis par ailleurs co-animateur de l'émission Slippery When Wet, un lundi par mois, où on parle de musique indépendante, de rock, de musique électronique, de trucs comme ça.
Ouais,
voilà.
Le garçon clivé, quoi.
Voilà, le garçon complètement clivé. Et puis aussi, je contribue beaucoup à mettre de la musique dans le pouce-disque, l'automate qui tourne pendant qu'il n'y a pas d'émission en direct.
Oui.
Voilà,
ouais, donc c'est indispensable, les pouces-disques. Il y avait les manches-disques avant, non?
Il y avait les manches-disques, et donc nous, on a un pouce-disque. Alors, il est digital, hein, bien évidemment. Mais...
C'est pas avec vos petits doigts?
Non, c'est pas avec nos petits doigts. C'est avec des électrons dans un ordinateur.
Voilà, ça y est, vous dites des grands mots.
Mais c'était une transition.
Pour vous
expliquer ma troisième casquette.
Ah,
du coup.
Puisque
dans le civil, quand je fais pas de la radio, je suis chercheur en physique. Voilà.
Oh. Chercheur en physique.
Ça
c'est-à-dire, vous cherchez des physiques agréables comme celui de Christine, par exemple?
Alors, oui, on pourrait interpréter ça comme je suis un gros dragueur et je passe mon temps à brancher des jeunes filles.
Non, c'est pas ça.
Puis alors aujourd'hui, vous n'avez pas intérêt.
Pas ça.
Il n'y a pas de relou dans cette émission.
Du tout, donc
encore
non,
moins
fais...
dans ce monde. Hein. Attention, hein, dans ce monde clivé.
Quel vœu pieux.
Mais. je suis une femme pieuse, c'est ça.
Oui, donc non, chercheur en physique, c'est vraiment parce que je fais de l'art du travail de recherche dans la discipline qui s'appelle la physique. Voilà.
Oui, mais plus particulièrement.
Alors, je vais vous raconter un peu de quoi il s'agit. Je me demandais comment j'allais aborder tout ça, parce que c'est pas évident d'expliquer sa recherche. D'autant que je fais des choses qui sont assez fondamentales. Donc, finalement...
Oh, le présomptueux.
Mais avouable, néanmoins.
Fondamentales, mais pas forcément indispensables. Il faut pas se méprendre sur le sens. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez comprendre fondamental comme ne servant à rien dans l'immédiat. C'est juste mon travail consiste essentiellement à produire de la connaissance dont on ignore si on s'en servira un jour. Mais en tout cas, moi je produis. c'est ça mon taf. Et alors, je vais vous donner une expression qui va vous faire rigoler. Ce que je fais, on appelle ça faire de la physique de la matière molle. C'est rigolo comme expression. C'est un peu dégoûtant comme ça.
Ah. On le craignait, mais c'est arrivé.
Mais non. C'est s'intéresser aux propriétés physiques de tous les matériaux qui sont faits de molécules ou d'atomes qui sont mal rangés, c'est-à-dire pas la matière cristalline, mais plutôt...
Ah, les trucs mal rangés, ça j'aime beaucoup, moi.
Les liquides...
Mes tiroirs...
Des nôtres.
La chambre de votre fille, tout ça.
Ça se théorise.
Les machins mal rangés, et alors... plus particulièrement là-dedans, moi, je fais de la recherche expérimentale, c'est-à-dire je construis des expériences.
Vous construisez du bazar ?
Je construis, non pas du bazar, mais je construis des expériences pour sonder le bazar et essayer d'en déduire quelque chose.
Ça y est, j'aime la physique. expliqué comme ça, alors, tout va mieux.
Attends, écoute.
Pour l'instant, ça reste assez peu précis finalement. Donc, je me suis dit que j'allais vous donner un exemple de problème qui m'intéresse, parce qu'au moins cet exemple-là, il est concret et on pourra ensuite
épiloguer. Mais pas un exercice, s'il vous plaît.
Non, ce ne sera pas noté, rassurez-vous. C'est juste un contrôle de connaissances rapide. Donc, par exemple, saviez-vous que dans nos vaisseaux sanguins, à l'intérieur des vaisseaux, on a des poils? C'est un peu dégueu de se dire qu'on a les vaisseaux sanguins poilus à l'intérieur.
Moi, ça m'a
fait cet effet-là. Donc, c'est pas des grands poils, hein, c'est plutôt des toutes petites molécules qui s'agitent un peu comme des anémones.
C'est joli quand vous le faites avec les mains.
Oui, c'est pas très radiophonique, mais bon, voilà. On a des poils qui s'agitent dans le flux sanguin et qui tapissent la paroi intérieure des vaisseaux. Et ces poils, c'est eux qui jouent le rôle de garde-barrière un peu du système vasculaire. Ils décident quelles molécules peuvent passer à travers la paroi vasculaire pour aller soigner des cellules à côté. C'est eux qui décident quelles cellules sanguines peuvent s'accrocher ou pas à la paroi vasculaire. Par exemple, les globules blancs, pour qu'ils puissent faire leur travail de globules blancs dans le système immunitaire, il faut qu'ils s'accrochent à la paroi et puis qu'ensuite ils traversent. Alors que les globules rouges, pas du tout, parce que sinon on fuit. Et donc, il y a besoin d'avoir des fonctions un peu antagonistes qui sont réalisées par le même objet biologique.
Et, mou.
Pardon ?
Et un objet mou.
Et très, très mou. Et en fait, le fait que ce truc-là soit mou, ça joue un rôle important dans la façon dont ça va contrôler un peu les interactions avec les cellules qui passent à proximité et ce qui va décider comment ça peut adhérer dessus ou pas, ou est-ce que ça va être plutôt repoussé. Donc, c'est typiquement ce genre de problèmes qui m'intéressent, c'est-à-dire essayer de comprendre les interactions entre une cellule ou un objet biologique un peu gros au voisinage d'une surface qui est couverte de poils, de tout petits poils.
Voilà. Oh, c'est beau, hein.
Donc je vous ai fait cet exemple pour la circulation sanguine. Mais ça veut dire,
moi j'ai une question, Jean-Jacques.
Moi j'en ai plusieurs, vas-y. Voilà.
Ça veut dire, Lionel, qu'on pourrait ensuite déplacer ces petits poils pour qu'ils aient une utilité ailleurs, par exemple pour ranger ma chambre ou pas du tout?
Alors,
pour faire le tri.
Dans le cas particulier du rangement de chambre, je pense que ça va demander pas mal de temps de développement. Après, c'est une autre étape dans la recherche, c'est plutôt vers l'application.
Mais dans la physiologie et la médecine, on pourrait y penser qu'ils servent à autre chose, ces petits zinzins.
Bah, c'est un peu comme ça que je me suis intéressé au sujet en première intention, c'est-à-dire que je savais faire pousser des poils sur des surfaces en arrivant dans le laboratoire où je travaille. Et pas que sur mes joues. Et du coup, en sachant faire ça, j'ai intéressé des collègues biologistes et biophysiciens qui m'ont dit « Ah, c'est marrant ton système, on pourrait mettre des cellules dessus, etc. » Et donc, j'ai commencé par faire des poils moi-même tout à fait synthétiques pour ensuite aller m'intéresser aux poils complètement biologiques et qu'on fabrique nous-mêmes à l'intérieur de notre organisme.
Spécialiste de la moquette.
Quelque part, on m'appelle Saint-Maclou.
Allons, soyons sérieux un peu tout de même.
À votre question sérieuse.
Oui, et le passage du mou au pas mou, au rigide, c'est une frontière ou c'est un continuum?
C'est un continuum. Et c'est même parfois paradoxal parce qu'on a tendance à ranger dans la matière molle des matériaux aussi durs que le verre à vitre, par exemple.
Ah oui?
Juste parce que c'est mal rangé, les atomes, dans le verre à vitre. Voilà, c'est pas cristallin.
Et c'est pas binôme. C'est pas binaire, je veux dire.
Non.
Le monde n'est pas binaire, ça me rassure.
Le monde n'est pas binaire, c'est tout en nuances de gris.
Ça me rassure. Ah, voilà.
Oui, alors on en revient à notre émission, peut-être.
Oui, d'accord, avec une virgule.
Allez, une petite virgule. Alors, dans votre activité professionnelle, cher invité, il y a sans doute un vocabulaire de métier, un jargon, un argot.
Il n'y a même que ça.
J'ai très peur.
Alors, vous allez nous proposer, s'il vous plaît, un de ces mots ou expressions, et ça va être à nous d'essayer de deviner ce qu'il signifie. Alors, on va se planter, c'est à peu près certain. Si nous devinons, nous pouvons revenir la prochaine fois, mais si nous ne devinons pas, heureusement pour nous, nous reviendrons quand même. À vous.
Alors, si vous êtes un tant soit peu helléniste, je pense que ça ne va vous poser aucun problème de reconstruire la définition avec vos petites forces.
N'est-ce pas, Jean ?
Je vous propose un mot qui s'appelle...
C'est un défi pour Jean.
S'appelle tribologie. Est-ce que vous savez ce que c'est que la tribologie ?
Tribologie, non. Alors, logis, oui, c'est le discours, le raisonnement, toutes ces sortes de choses.
Tribo, c'est la tribu.
Tribo, je ne crois pas. Non, ça doit être le tri, il doit avoir quelque chose avec le trait, le trois.
Alors, ils sont trois et c'est logique.
Mais il me semble que ça me...
Ah, c'est le ternaire. Quand on disait que tout n'était pas binaire, c'est donc ternaire, c'est la tribologie. Non, c'est pas ça.
Non.
Est-ce que le bar du tribunal existe encore ? Parce que ça, j'adorais cet endroit et on l'appelait le trib. Et c'était tribologie, quoi. Vraiment que d'y aller. C'était vraiment la tribologie de se retrouver pour l'apéro.
Non, c'est pas ça.
Pas le temps de retrier ma mémoire pour savoir si j'arrive à retrouver le radical. Non.
Alors, quand je suis obligée de réfléchir comme ça, je pense à un moment terrible de ma scolarité. Ma prof de physique s'appelait Madame Terrier. Et un jour, elle m'a dit « Vous n'êtes pas bête, mais vous ferez une bonne littéraire ».
Est-ce qu'il faut prendre ça comme un conseil?
Ça vous laisse froid
elle
aussi.
Ouais,
vraiment, j'ai failli la pousser dans l'escalier. Mais c'est pas pour autant que elle m'aide à trouver tribologie, qui est un mot. Qui est un mot.
Vous voulez de l'aide?
Oui.
Alors effectivement, le suffixe est bien celui dont on a l'habitude. Oui. Donc c'est alors logie au sens de science de.
Écologie.
Et ensuite le tribo, il vient effectivement de tri. Alors est-ce que c'est tribos ou tribine en grec? Je ne sais plus. Mais ça veut dire frotter.
Ah,
et donc
oui,
la tribologie, c'est la science du frottement. Donc,
d'un érotisme torride.
C'est d'un érotisme torride, je suis d'accord avec vous.
D'accord, c'est pas au sens philosophique, c'est au sens physique. Il est bizarre ce type, entre ses poils, sa science du frottement, on n'aurait pas dû l'inviter.
La science du frottement, c'est par là que j'ai commencé la recherche, en fait. Donc je suis passé de la tribologie à la science du poil.
Il s'est pris des râteaux et alors il a...
Oui, on donc voilà, pas ça du tout
ça
à
vous
le regarder
si
sagement. Ah ouais, tribologie, je le garde.
Mais c'est vrai que c'est très très érotique.
La science du frottement, enfin, c'est très érotique.
Bon, ben jusque-là vous avez eu le beau rôle, mais attendons la suite.
Mais moi je voulais une virgule, mais une virgule frottée.
On va la mettre.
Ah.
Ah ben voilà, c'est la rubrique 2, c'est le moment de la vengeance. Je me frotte les mains, la tribologie c'est de notre côté maintenant. Alors, c'est nous
c'est
qui allons vous
peur.
Proposer d'aller fouiller dans la casquette brésilienne de Jean, d'en tirer un papier sur lequel est écrit un mot que vous allez nous lire et définir.
Alors, je précise aux auditeurs que d'habitude, la casquette est avancée par Jean vers l'invité.
Et oui, il y a tout un rituel.
Studio. Sauf que là, comme je fais la technique en même temps, je suis malheureusement de l'autre côté de la vitre. Donc, Jean a prêté la casquette, ce qui apparemment est un événement assez
exceptionnel. C'est un honneur, c'est un honneur.
Et j'essaye de ne pas regarder les mots que je tire.
Et vous avez deux mains.
Oh, mais on l'a déjà eu.
Ah.
Il n'a pas été retiré.
Qu'est-ce que c'est que cette
erreur ? Je viens de tirer Paul Latouche qui a été défini par Émilie.
Non, il a été si bien défini par Émilie. Non.
Alors là, manque de tri de ma part.
Je le mets de côté. Il faudrait mettre un peu de poil dans cette casquette pour ranger le bazar. J'en tire un autre. Ah, celui-là, on ne l'a pas eu et je n'ai pas la moindre idée de ce que
alors,
ça veut dire.
Alors, pouvez-vous nous le lire ?
Il s'agit de pécamineux.
Okay.
Ah oui.
Vous en connaissez la signification ? Pas du tout.
Pécamineux, pas du tout, mais alors du tout.
Mais du tout. Allez, cherchez un peu.
Alors, qu'est-ce que je vois dans pécamineux ?
Qu'est-ce que vous voyez ?
Alors, une particularité du mot, c'est quand même il est écrit avec deux C.
Oui, très bien.
Du
bien
coup,
vu.
C'est péca.
Oui.
Et alors, péca. Peccato,
ben
le
oui.
péché.
Ah,
ça a
joli.
À voir avec le péché, parce que des mots avec deux C comme ça, il n'y en a pas tous les jours.
Si, le peccato, il peccato.
Et
si,
ensuite, si, mineux. Alors, mineux, par contre, ça m'inspire moins, mineux, parce que c'est, je sais pas, c'est un truc qui ne donne pas très envie. Ça me fait penser à miteux, mais ce n'est certainement pas ça. Alors, le mineux, je ne sais pas quoi en faire. Donc, le péché, vous me dites que c'est la bonne piste.
C'est pas mal du tout.
Ah, le péché, pas l'arbre, hein, le péché...
Oui, comme vous voulez, mais ce n'est pas l'arbre, en l'occurrence.
Mineux, mineur, profond, ça désigne...
Ouais, on pourrait dire qu'il a...
Ça désigne tout ce qui a à voir avec
les
péchés très,
oui.
très graves.
Il est
pas mauvais, il n'est pas loin,
pas mauvais.
Et donc pas mauvais.
Parce que pécamineux, ça veut dire qu'il concerne le péché.
Ah.
Voilà ce que j'ai trouvé. Mais vous pourriez nous en dire plus, Maître Avezou ?
Guère plus, sinon que c'est par extension, ça désigne aussi le maladif. D'accord. Voilà aussi.
Ah, j'imaginais pas qu'il y avait des sens si par extension de quoi, du coup, parce que
les évolutions normales de la langue, c'est-à-dire par métaphore, par voisinage, etc., les mots modifient leur sens. Ce qui fait que dans les dictionnaires un peu étoffés, on donne assez souvent plusieurs sens à un même mot, plusieurs sens voisins, ou l'histoire faisant son œuvre, pas si voisin que ça.
D'accord.
Et le mineux, vous pourriez l'expliquer, vous,
non,
Jean?
Ça, je m'en souviens plus.
Bon, vous trouverez pour la prochaine fois?
Oh, mais bien sûr.
Oh, oui. Très, très bien. Alors, pécamineux, qui concerne le péché? On reste sur cette définition? Elle vous convient tous les deux?
Moi, ça me va tout à fait.
Bon, restons dans le péché,
alors.
Je suis
très, très fier d'avoir trouvé le péché.
Oui, ouais, vous êtes allé très, très vite. Très, très, très vite. Un côté latin, cette fois-ci, après l'helléniste.
Vous voulez une petite virgule, là?
Oui.
Allez.
Oui,
on peut se...
Alors, cher invité, est-ce que vous avez un mot fétiche, un mot talisman, un mot qui vous porte bonheur, un mot qui vous suit, qui vous poursuit, qui vous hante?
Ouais, j'ai un mot qui me poursuit, je l'ai même utilisé tout à l'heure sans faire exprès.
Ça, c'est très bon signe.
Et c'est un tic de langage que je trouve abominable, mais en même temps très utile, en tout cas dans notre communauté de chercheurs, c'est « typiquement ». Typiquement, pour nous, ça peut vouloir dire des choses extrêmement diverses.
Ah, oui.
Par exemple, on a une conversation avec un collègue et on veut savoir quelle est la valeur approximative de telle quantité. Voilà, ça, tu me dis tel paramètre, combien ça vaut. On demande régulièrement qu'est-ce que ça vaut typiquement. Quand on demande ça, ça veut dire, donne-moi une valeur avec une grosse louche, je me fiche de savoir si ça vaut 1,7 ou 1,8, dis-moi si c'est 1 ou 10 ou 100. Voilà.
Donc, ça, c'est typique.
Ça, c'est un sens qu'on donne à typique ou typiquement, c'est avec une grosse louche.
Okay.
Mais ça peut aussi vouloir dire des choses plus précises et que l'interlocuteur comprend de manière contextuelle, en fonction de la teneur de la conversation. C'est-à-dire que...
La louche devient une petite cuillère.
Si je demande au même collègue, alors ton protocole expérimental, en quoi il consiste typiquement? Eh bien, le collègue va me décrire par le menu qu'il allume son microscope une demi-heure avant de faire la mesure, comme ça la lampe a le temps de chauffer, et qu'après, il place son échantillon à telle température sur le dit microscope, et qu'ensuite, il observe ses objets pendant tant de temps en faisant telle et telle expérience. Et il va me décrire un truc qui va peut-être lui prendre une demi-heure à me raconter, mais ça, c'est le protocole typique. Et ça peut correspondre à des exigences en termes de détails qui sont complètement différentes. Et en fait, ce qui est amusant, c'est de voir que la personne à qui on demande cette information typique, elle analyse toute seule et elle répond de la bonne manière, avec le bon niveau de détail. Donc, qu'est-ce que ça vaut typiquement? On sait qu'on attend juste un ordre de grandeur, mais comment tu t'y prends typiquement pour faire ça? Ah, alors là, c'est une autre histoire. C'est pas la même bière, et là, on y met du détail. Voilà, donc ouais. Et c'est un mot qu'on utilise à tout bout de champ.
Bon,
à la place de valeur moyenne, etc., tout est typique.
Tout est typique.
Image typique, résultat typique. Bon. On a l'impression d'être des Indiens dans leur typique.
Tout est folklorique.
On va être un peu coincé parce que là, il emploie un mot, il vient d'en donner la définition. Typique. Mais d'habitude, avec ce mot-là, on propose à trois, notre invité et nous deux, Christine et moi, de jouer à fabriquer une citation, un proverbe, inventé, bien sûr, pour que ça soit plus amusant et à donner un nom d'auteur éventuellement inventé. Mais alors là, il vient de nous donner tellement de détails qu'on va avoir du mal à se distraire de la définition qu'il vient de donner.
Je vous fais confiance, Jean. Typiquement, vous allez exceller. Je vous donne le temps de la petite musique que j'avais choisie pour illustrer Pécamineux. Et oui, j'avais tiré un peu le péché par les poils.
Non, par les écailles, plutôt.
Voilà, c'était pour revenir dans votre spécialité. Et pour moi, Pécamineux a évoqué le rêve du pêcheur de Woolsey et Souchon. On part dans les îles, c'est typique.
Bon, au boulot.
Au boulot. Thank you.
Allez, à nous de jouer.
Oh, moi c'était bon.
Allez, on commence par...
Qui c'est qui s'y colle en premier?
Allez, Christine.
Ah bon, allez, j'y vais. C'est la citation d'un jeune enfant qui a trop observé Lionel travailler, chercher, et un beau matin lui a dit « Ah, typiquement typique, et tu mens ».
c'est curieux parce que, sans se donner le mot... Je me suis mis dans la même situation.
Eh ben,
que...
je pense qu'on est trois en fait. Jean,
bon,
allez-y.
Alors, quel est celui qui va pousser le bouchon le plus loin? Donc, en situation de vaccination d'un jeune enfant, souvent craintif, hein, les petits plus qu'encore que les plus grands, la belle infirmière, pour rassurer le jeune gamin, lui dit « Rassure-toi, je t'y pique, mais tu vas rien sentir.
» C'est pas loin. Ah oui, c'est l'enfant. C'est ça pique, hein, ça pique.
Alors,
on a tous
joué la même carte.
Ah,
c'est vrai.
À vous, Lionel, à vous.
Alors, de mon côté, j'ai utilisé la petite sonorité particulière que typique a quand c'est dit en allemand, puisque ça se dit tupiche. Mm-hmm. Et donc, tupiche, typique, papa, tu piques. Voilà,
bon.
Donc
Lionel,
on a
tu piques.
Tous décidé de jouer plus sur les sonorités que sur le sens
ça,
aujourd'hui.
Voilà, qui est piquant aujourd'hui.
Mais en même temps, typique, c'est pas évident d'en faire quelque chose de particulièrement intéressant.
De particulièrement
typique.
C'est
vrai, oui. Bon, allez, continuons. Sans transition, comme on disait, je sais pas où.
Au journal de 20h.
Voilà. Ah, mais oui, c'est vrai.
Mais
je regarde
midi,
tellement
là,
peu souvent, je me souvenais plus d'où ça sortait.
On finit par oublier. Allez.
Bon, cher invité, vous avez un ou plusieurs prénoms qui vous plaît ou pas. Certains ont un prénom qui désigne une qualité, Clémence, juste, fidèle, ou alors une fleur, Violette, Marguerite, ou fleur simplement. Ou une caractéristique aussi, Claire, Sauveur, Benjamin. Alors, quel nom aimeriez-vous avoir comme prénom supplémentaire? Et pourquoi, si possible?
Alors ça, j'ai réfléchi à un moment, parce que comme je connais les règles du jeu, j'ai pas pu m'empêcher de tourner ça dans ma tête. Voilà. Et alors, je suis pas complètement satisfait de la façon dont je pourrais appréhender cette partie de votre émission, cher Kezako. Bon, alors déjà, vous avez remarqué que moi, j'ai un nom de famille qui est un nom commun.
C'est ce que j'allais dire.
Et du coup, j'ai pas vraiment envie de lui coller un autre nom commun avant. Je vous propose la chose suivante. Si je devais rajouter un qualificatif pour me désigner, moi, en tant que personne, j'aimerais bien quelque chose qui évoque le fait que, par exemple, je suis d'humeur assez constante. Voilà,
Ah, oui.
C'est joli, constant.
Constant pour être une solution. J'avais pensé à autre chose qui irait très bien avec cette constance et cette placidité. C'est aussi parce que j'aime énormément les vaches. Je suis un fan de cet animal. Je trouve que les vaches sont des animaux magnifiques avec un regard d'une profondeur qui n'a d'égal que la vacuité. Et, donc j'aime beaucoup les vaches. Et je m'appellerais bien comme une vache. Et du coup, je pourrais aussi rajouter noisette, par exemple, pour désigner une vache, oui. Une vache marron avec une jolie robe un peu chatoyante comme ça. Donc, ou Lionel Constant ou Lionel Noisette.
Oh, très joli.
Je vous laisse choisir.
Pas mal. Pas mal du tout.
Moi, j'aime beaucoup Lionel Noisette. Puis, ça fait un petit clin d'œil à notre avant-dernière émission. On reste avec les écureuils. Enfin, ouais. Voilà, il y a...
Ah oui, c'est vrai, j'avais pas...
Il y a du sens dans cette émission.
J'avais pas saisi le clin d'œil à l'écureuil.
Voilà. Un clin d'œil à Émilie Jeanne, notre dernière invitée,
oui.
Qui avait écurolé, j'allais dire caracolé, mais presque.
Oui, mais aussi j'ai vérifié, c'est un ajout à l'émission précédente, que ça
pour
désigne,
ceux qui écoutent,
c'est, ça désigne aussi une autre caractéristique des écureuils, c'est qu'ils se cachent. Ils vont s'envoler, mais toujours pour se cacher.
Ah,
On le dira à Émilie aussi.
On précisera. Vous pourrez la réinviter.
Mais bien sûr.
Avec plaisir. Bon.
Petite virgule.
Ah, cette virgule-là, elle sonne comme la fin. C'est une espèce de glas à la Mingus. Vous sentez le truc, c'est
oui,
bientôt
c'est vrai.
Fini.
Ça sent le sapin.
Ah ouais, mais non, c'est le printemps. Ça sent bon partout, là. Eh bien, merci. Merci, Lionel Bureau, Lionel Noisette Bureau, Lionel Constant Noisette Bureau. Merci, Jean Avezou.
Mais je vous en prie, très cher.
Merci à nos auditeurs et auditrices pour ce Quesaco du mois de mars. C'est ça?
Ou c'était... Non, ce non, sera
nous
mois
sommes
de
encore
février.
C'est dingue, ça pétille. En
comme
moi.
Le temps passe.
Je vais faire... Oui, oui, ouais, je suis impatiente du printemps. Eh bien, j'ai gardé une petite question 6 bis. Alors, il faut que je la retrouve. En lisant votre signature de mail, qui est ma foi très impressionnante, il est écrit tout en bas, après votre nom et votre prénom, sur lequel ne figure d'ailleurs ni Noisette ni Constant.
Non, mais je vais le rajouter de ce pas dans ma signature électronique.
Il est donc dans votre signature indiqué « Labo interdisciplinaire de physique ». Et je voulais savoir si ça voulait dire que la physique se cache dans toutes les disciplines, même artistiques, même sportives.
Et oui, bah oui, il y a une réponse courte à ça qui est oui, bien sûr, la physique se cache absolument partout, y compris dans les arts. Il y a même parfois des occasions de travailler, chercheurs en physique, avec des artistes. Alors ça m'est jamais arrivé personnellement, mais j'ai des collègues au laboratoire interdisciplinaire de physique qui ont eu l'occasion d'accueillir en résidence des artistes qui sont venus travailler qui avaient besoin d'une compréhension d'un certain nombre de phénomènes pour pouvoir créer des installations. Ça a été le cas d'une artiste qui montait des installations dans laquelle elle récupérait de l'eau qui devait condenser sur des voiles. Alors c'était très très beau à voir et il fallait qu'elle contrôle un tant soit peu le phénomène pour que ses œuvres soient convenablement, enfin fassent l'effet produit. Donc ça arrive tout
D'accord.
à fait d'avoir une interface physique-art.
Wow. Typiquement intéressant.
On peut vraiment faire plein de choses avec la physique, ça mène à tout.
Il suffit que ce soit un vivant.
Ah oui.
Vivant ou mort.
Pas, oh
non,
ou mort.
On travaille très bien avec les trucs sans vie aussi.
Les trucs mous, les trucs sans vie, les trucs vivants.
Les trucs morts et mous, c'est un peu le vieux chewing-gum sous la table. On doit certainement pouvoir
oui,
en faire un truc.
Ouais. Ça, il y a une thèse à faire, voilà. Ça c'est sûr.
On n'a pas pu maintenir le niveau jusqu'au bout.
Oh là là, quelle émission typique. merci Quesaco, merci notre invité Lionel Bureau.
Merci à vous pour l'invitation. J'étais mort de trouille de faire la folie technique.
Et nous donc, parce que la radio, c'est de la physique, non?
Ah bah c'est même que ça.
Oh, voilà, voilà pourquoi c'est quelquefois compliqué, bon, pour moi.
J'insiste pas plus, parce qu'après c'est lourdingue de parler
ouais,
de
physique. Ne nous faites pas un cours non plus.
Ça suffit.
Bon, il n'est pas temps de se dire au revoir?
Si, au revoir Jean.
Au revoir Christine.
Au mois prochain.
Salut Lionel, au revoir à tous.
Salut Lionel, merci.
Au mois prochain, ce sera Quesaco. Ha 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 ha